Bonjour, ici Hugo Prévost, le rédacteur en chef de pieuvre.ca. Si vous aimez nos épisodes de podcast, si vous aimez ce qu'on publie sur notre site, je vous invite à nous encourager en vous abonnant à notre page Patreon. Pour seulement 5 $ par mois, ça vous donne accès à une séance de questions-réponses. Ça vous donne également accès à des épisodes en primeur du balado Rembobinage. Et nous, avec votre contribution, ça nous permet de payer nos journalistes, nos pigistes. Ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions. Et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. François-Dominique Laramé, bonjour.
Bonjour Hugo.
Alors, on m'apprend à l'instant que je te tire de tes vacances pour te faire travailler un peu.
Ah, qu'est-ce que tu veux? La turpitude de nos gouvernants l'exige, il n'y a pas de doute.
écoute, tu es évidemment, bienvenue, évidemment, entretien journalistique. Tu es connu de des gens qui écoutent les balados de pieuvre. Ensemble, on a collaboré une série qui s'appelle, en fait, les nouvelles de l'oncle Sam, donc ce qui se passe du côté de la politique américaine. Tu as aussi chroniqué là sur la politique canadienne pour les dernières élections fédérales. Donc, tu es notre correspondant politique maison chez Pieuvre.
Alors, et j'en suis fort heureux.
Écoute, on se parle aujourd'hui parce que c'est un épisode d'entretien un peu particulier. On a fait ça quelques reprises déjà, mais l'actualité le commande, l'exige. Le gouvernement fédéral, en tout cas le Parlement Ottawa, a adopté le projet de loi C-18 la semaine dernière. Et c'est un projet de loi qui peut avoir des retombées importantes pour les médias canadiens. C'est en lien avec les plateformes numériques, donc Google, Facebook. Ce que j'aimerais te demander d'abord, puis évidemment après ça, je te demandais de te prononcer plus personnellement sur tout ça, mais est-ce que pour les gens qui sont pas au courant, parce que toi et moi, bon, on suit l'actualité beaucoup, mais pour les gens qui sont pas tout à fait branchés là-dessus, qu'est-ce qui se passe avec ces 18? Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, l'idée de base, c'est d'essayer de contrer l'effet pervers des plateformes sur le marché publicitaire pour les médias, parce que essentiellement Google, Facebook et dans une moindre mesure Twitter ont accaparé l'essentiel des revenus publicitaires depuis quelques années. Les médias perdent de l'argent et l'utilisation par les plateformes de liens vers le contenu des médias pour attirer de l'auditoire sur leur plateforme et générer des revenus de publicité pose un certain problème puisque ces revenus publicitaires-là ne vont pas aux créateurs du contenu, donc les médias en tant que tels. Donc le projet de loi visait à rectifier ça en forçant les plateformes à négocier des ententes avec les médias pour partager ces revenus-là. Et malheureusement, il y a un trou dans le projet de loi, un trou béant, qui fait en sorte que si les plateformes refusent dorénavant de diffuser des liens vers le contenu des médias, ben elles n'auront pas besoin de payer les médias pour le faire, puisqu'elles ne publient plus. On vous dit... si vous publiez du contenu des médias ou des liens vers le contenu des médias, vous devez rémunérer les médias. Ben, en ne publiant plus ce contenu-là, en ne publiant plus ces liens-là, on se libère de l'obligation. Et là, ça peut être extrêmement dommageable.
Bon, évidemment, tu parles d'un trou dans la loi. On peut quand même pas forcer les plateformes à accepter de publier du contenu, là.
Non, absolument, parce que c'est justement le trou. C'est que cette loi-là donne une liberté aux plateformes de refuser de publier le contenu et donc de refuser de payer, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les revenus vont retourner aux médias, qui vont encore là vont avoir moins de trafic parce que bien des gens s'informent sur les médias sociaux, obtiennent leur information ou accèdent au contenu des médias par l'intermédiaire de Facebook ou l'intermédiaire de Twitter. Si ça n'est plus le cas maintenant, parce que ces médias-là n'ont plus accès aux plateformes, ben, il ne reste que les médias de désinformation qui, eux, ne demandent pas d'argent et qui vont avoir le champ libre pour désinformer le public. Alors ça, c'est un gros problème. Si le gouvernement avait tout simplement imposé une taxe sur les revenus publicitaires qui s'applique à tout le monde et contrebalancé par un crédit d'impôt à la production de contenu journalistique pour que les vrais médias en ressortent gagnants, on aurait évité tout ce problème. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Il y a sûrement une stratégie là-dedans du côté du gouvernement, parce que ça semble vraiment trop bête pour être involontaire ou même pour être volontaire. Quelle stratégie, par contre, je ne sais pas.
Bien, c'est sûr que là, c'est ça, on a un peu un flou, c'est-à-dire Ça a été adopté en chambre, ça a passé par le Sénat, il y a tout un processus évidemment d'approbation pour un projet de loi. Ça fait quelques années que ça dure, donc une plateforme qu'on a déjà dit, justement, tu parlais de ne plus diffuser les contenus, il y a déjà eu des menaces de la part de Google et de Facebook, de dire « si vous allez de l'avant, on va bloquer les contenus ». C'est quelque chose qui avait été fait en Australie d'ailleurs déjà.
Donc Meta avait effectué ce genre de menace-là, il avait reculé. Peut-être que le gouvernement fédéral espère que ce sera la même chose au Canada. Sinon, ben, on se retrouve avec un sérieux problème de diffusion du contenu et de qualité de l'information pour la proportion importante. Je pense que j'ai vu 57% de la population de moins de 30 ans qui s'informe principalement par l'intermédiaire des médias sociaux. Ben, si le contenu des médias sérieux ne circule plus sur les médias sociaux, ben, ces gens-là n'iront pas accès.
Oui, effectivement. Puis tout à l'heure, dans cet épisode-ci d'entretien, on va parler avec quelqu'un justement qui s'informe principalement sur les réseaux sociaux, savoir comment cette personne-là voit ça, cet enjeu-là, et est-ce que ça va avoir une incidence sur son régime d'information, si on veut. J'aimerais te demander, parce que bon, tu parlais de stratégie gouvernementale, ce qu'il faut savoir, c'est que là, la loi est adoptée, la loi n'est pas en vigueur. Il y a toujours un délai de 6 mois. Quand une loi reçoit la sanction royale, c'est-à-dire quand le gouverneur général signe le document. Bon. Il y a toujours une période de 6 mois et le gouvernement fédéral a déjà indiqué que c'est dans ces 6 mois-là qu'ils vont définir la réglementation, tout ce qui va découler de la loi, comment ça va s'appliquer, tout ça. Et on nous apprend déjà, là, je disais le National Post, je ne lis pas très souvent, mais j'ai une collègue qui travaille là, un confrère, qui dit il y a déjà des négociations. Là. Ils sont déjà en train de se parler. C'est les histoires de menaces puis de pression puis tout ça. Puis récemment, Ottawa disait si vraiment Facebook, Google vont de l'avant, bloquent les contenus, on va aider les salles de rédaction sans donner aucun détail. Tout ça, là, c'est on négocie par la place publique un peu, là.
Oui, justement, les étapes de réglementation dans les projets de loi sont souvent l'essentiel du travail parce que la loi établit un cadre. Mais sans définir les détails, sans définir comment ce sera appliqué dans la réalité, comment définir les petites entourloupettes qu'on peut se permettre à gauche et à droite pour arriver à nos fins. Mais en effet, pour le moment, on a des négociations sur la place publique. On a déjà Meta qui a annoncé hier mettre fin à son entente, déjà négociée dans le passé avec les coop de l'information. Donc, pour ces journaux quotidiens-là, d'un peu partout au Québec, ben c'est un problème. Leur source de revenus en provenance de Meta va se tarir, probablement même avant l'entrée en vigueur officielle du projet de loi. Donc, c'est des menaces, c'est de la négociation, mais ça joue serré.
Oui, absolument. Puis, dans une autre partie de l'épisode d'aujourd'hui, c'est très, très multiparti. Presque un métavers ou un multivers, on se croirait dans un film de Marvel. on va avoir une entrevue avec quelqu'un qui vient d'un média qui est largement uniquement numérique. Puis bon, évidemment, c'est pieuvre, c'est ça aussi. On est sur Facebook, on est sur Twitter. Si c'est deux... Bon, Twitter, il n'y a pas été question de blocage ou quoi que ce soit, mais si Facebook bloque l'affichage de nos contenus, c'est une bonne partie de notre entrée de lecteurs qui disparaît. Donc, ça reste à voir, évidemment. Oui.
Et c'est le cas pour la plupart des petits médias numériques. Voilà. Les médias qui sont composés d'une ou deux ou trois personnes qui travaillent sur un sujet particulier, qui couvrent une actualité locale ou hyper locale, reçoivent l'essentiel de leur trafic dans bien des cas par l'intermédiaire de Facebook, par l'intermédiaire d'Instagram. Et si ça disparaît du jour au lendemain, ces entreprises-là sont laissées pour compte. Alors que le projet de loi, lui, semble avoir été fait sur mesure pour les grands groupes de presse, les post-médias, les Torstar, qui justement sont en train de fusionner cette semaine pour le plus grand malheur de tous. Donc, ce projet de loi-là va faire beaucoup de victimes collatérales.
Et on a discuté un peu avant l'enregistrement. Il y a aussi un aspect, tu dis, cette crise-là est bâtie sur un peu du vent, finalement, là.
Oui, parce que la raison pour laquelle Meta, Google et, dans une moindre mesure, Twitter ont capturé le marché de la publicité, c'est que ces entreprises-là promettent aux annonceurs un public ultra ciblé. Vous voulez rejoindre des hommes de 25 à 35 ans qui sont adeptes de courses automobiles et qui sont probablement sur le point de déménager? On a ça. Vous cherchez des femmes de 40 à 55 ans qui vivent en banlieue et qui font de l'activité physique en écoutant de la musique country. On a le profil démographique aussi qui vous permet de le faire au lieu de gaspiller votre argent dans des médias généralistes qui s'adressent à tout le monde et où 95% de l'auditoire achètera jamais votre produit, que vous lui montriez votre pub ou non. Or, on n'a qu'à jeter un coup d'œil sur nos réseaux sociaux pour voir que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans la réalité. Les algorithmes publicitaires du Big Tech ont beau être extraordinairement envahissants, fouillés partout et nous espionner tout le temps, ils n'ont pas l'air de comprendre grand-chose. Moi, je me rappelle pas de la dernière fois qu'une pub de Facebook ou qu'un tweet suggéré spécialement pour moi m'a semblé pertinent. Je sais pas si c'est ton cas aussi, là.
Ben, écoute, sur Instagram, on pense à la fois que je suis une femme enceinte, un homme qui a un dad bod, ça, c'est pas tout à fait faux, qui aime les voitures, j'ai pas de char. Donc, il y a vraiment, des fois, c'est pile dessus. Des fois, je suis comme, ah, OK, ça pourrait être intéressant, puis ça m'est arrivé une fois ou deux d'acheter via Instagram, mais très rare. Mais autrement, Facebook, moi, sur l'ordinateur, moi, je bloque les publicités. Sur Twitter, j'utilise TweetDeck avec un bloqueur de publicité. Donc, peut-être que je manque un univers de publicité ciblée parfaite pour moi, je m'en fous un peu.
Je ne bloque pas tout systématiquement, mais ce que je reçois est plus un contenu divertissant qu'autre chose. Ouais. Je m'amuse à voir jusqu'à quel point les algorithmes me connaissent mal. On m'a déjà suggéré de considérer la technologie de Saab, la compagnie suédoise, la prochaine fois que j'achèterai un avion de chasse. Ça m'arrive pas très souvent. On m'a rappelé plusieurs fois d'aller voter aux élections présidentielles en Sierra Leone. Pendant un mois l'été passé, j'étais bombardé d'annonces pour des petites culottes sanitaires pour les règles abondantes. Moi qui suis un homme cis dans la cinquantaine, je reçois constamment des posts de pages Facebook consacrées aux Maple Leafs de Toronto. Moi, même si je me fous du hockey et de la ville de Toronto, et que je passe mon temps à bloquer les sources de ces cochonneries-là. Il y en a une source, une quantité intarissable, apparemment. Pas plus tard qu'hier, une pub Facebook m'encourageait à réserver une chambre dans un hôtel qui est situé à distance de marche de chez moi, probablement parce que j'ai récemment fait une réservation dans un autre hôtel de la même chaîne en Gaspésie pour mes vacances. C'est sans parler de toutes les annonces d'événements déjà passés ou annulés auxquels on m'invite. Bref, c'est du n'importe quoi. Et les annonceurs qui ont apparemment une foi aveugle dans les algorithmes, puisqu'ils continuent à acheter chez Facebook, chez Google, etc., ben, ils ont aucun moyen de savoir s'ils en ont vraiment pour leur argent. Honnêtement, je suis pas sûr que c'est plus efficace que d'annoncer dans son journal local, et ça draine tout cet argent-là vers des multinationales étrangères.
Ben, c'est ça, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice. On s'est dit, c'est par là que ça se passe, donc c'est là qu'on met l'argent, et éventuellement, on se dit, bon, ben c'est là uniquement là qu'on annonce parce que c'est à peu près la seule plateforme qui reste. Puis tu sais, tu dis, bon, ben on va encourager le média local, on va aller sur son site web. Il y a de la publicité affichée. Généralement, c'est AdSense qui appartient à Google. Donc, on s'en sort pas non plus.
Et non.
Donc, vraiment, bon, je voyais des commentaires passer, puis on va terminer là-dessus, mais je voyais des commentaires passer cette semaine des gens qui disaient « abonnez-vous à un journal local, abonnez-vous à la presse locale ». Mais encore une fois, moi, tout ce que je peux dire pour Pieuvre, c'est « abonnez-vous à l'infolette ou abonnez-vous sur Patreon », mais c'est pas quelque chose, il n'y a pas de copie papier. Je peux comprendre de dire « bon, ben on va s'abonner au Devoir », mais si tu fais la liste des journaux qui restent en version papier…
C'est à peu près ça.
Ben, Journal de Montréal, ils ont plus d'édition du dimanche. Les coupes de l'information, ils ont plus aucun papier. Donc, en tout cas, c'est j'espère pour, ne serait-ce que pour notre métier, là, j'espère qu'il va y avoir une entente entre les gens du numérique puis le gouvernement. Je m'attends pas à ce que Pieuvre demain matin dise « OK, on reçoit un chèque de 10 000 $ par mois soudainement parce que Facebook juge que c'est ça le bon montant. » Mais quand on pense à, tu parlais de désinformation puis tu parlais de fausses nouvelles et tout ça, on l'a vu à quel point c'est fragile cet écosystème-là, puis on l'a vu à quel point quand on combine ça avec cette fragilité-là avec les algorithmes de Facebook qui veulent qu'on réagisse à des contenus qui sont peu ou pas vérifiés, ben ça fait en sorte qu'il y a de la haine sur Facebook, il y a des fausses informations, il y a des gens qui pensent que les vaccins contre la COVID c'est pas bon, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, il y a des gens qui pensent que Justin Trudeau mange des bébés, non je pense pas là, mais tu sais,
oh, il y a vraiment surpris.
Mais c'est ça. Donc, des fois, on découvre, des fois, on entrevoit comme des parties vraiment sombres d'Internet. Et c'est ça. Ça vient par des places où on dit on va tout canaliser. Parce qu'après ça, en canalisant tout, on peut aller chercher les revenus publicitaires. Et là, comme média, on se retrouve un peu le bec à l'eau. Bref. Écoute, évidemment, toi et moi, on va surveiller ça. Je te remercie pour ton résumé, ton point de vue. Évidemment, c'est toujours intéressant de t'entendre sur ces questions-là. Mais voilà, donc on garde l'œil ouvert là-dessus. Entre-temps, ben écoute, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour Entretien journalistique.
Merci Hugo, j'aurais aimé avoir des meilleures réponses ou des solutions aux problèmes, mais malheureusement, on n'est pas là encore.
Comme je te dis, on va croiser les doigts pour qu'au moins on puisse continuer à diffuser nos contenus sur les plateformes, quitte ensuite à essayer de savoir comment est-ce qu'on sort un peu la tête de cet oligopole un peu, de cette concentration extrême, voilà, des contenus en ligne. Donc, merci encore, puis ben à bientôt.
À bientôt.
André Bérubé, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Entretien journalistique, évidemment. Vous êtes l'éditeur et le rédacteur en chef de Est Média Montréal, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Donc, évidemment, aujourd'hui, on se parle parce que, en fait, moi, je vous ai découvert sur Facebook. Donc, okay. Vos contenus étaient partagés par des gens qui étaient dans ma liste d'amis. Je me suis abonné à la page Facebook de ce Média Montréal. Et si on se parle aujourd'hui, c'est évidemment par rapport à C-18, projet de loi C-18. Pour ceux qui écoutent l'épisode depuis le début, évidemment, il y a quelques minutes, je parlais avec François-Dominique Laramie qui nous faisait un résumé du projet de loi. Entre ma discussion aujourd'hui dans l'enregistrement et en ce moment où on se parle, M. Bérubé, on a appris, bon, d'autres développements. Google aussi allait emboîter le pas à Facebook pour bloquer éventuellement les contenus canadiens, médiatiques canadiens sur ces plateformes. Tout ça, évidemment, par rapport aux redevances qui vont éventuellement être exigées bon, par Ottawa, tout ça. Si je me trompe pas, Est Média Montréal n'a pas de version papier, c'est bien ça?
Exactement. Est Média Montréal a été lancé 5 ans, presque jour pour jour. Et c'est un média 100% en ligne. Mm-hmm. Donc, effectivement, les réseaux sociaux pour nous sont importants, particulièrement Facebook, qui faisait déjà partie un peu de la mise en marché du média. Donc oui, c'est un média 100% en ligne pour répondre exactement à votre question. Il n'y a pas de papier.
Parfait. Ben comme évidemment comme nous chez Pieuvre, vous avez bien sûr votre site web. Bon, je le vois sur mon deuxième écran en ce moment pendant qu'on se parle tout ça. Mais justement, vous comme média entièrement numérique. Parce que, bon, l'argument que j'ai vu passer quand Facebook a annoncé qu'il allait bloquer les contenus, c'était « abonnez-vous à un journal local, abonnez-vous à votre journal de quartier, etc. » Journal de quartier en papier, il en reste un petit peu. Là, on parle de Montréal, il en reste pas tant que ça. Vous êtes hyper local, vous êtes donc, évidemment, le nom dit Est Montréal. D'ailleurs, c'est mon coin, là. Moi, je suis dans Hochelaga-Maisonneuve. On peut pas s'abonner à un journal, on peut pas s'abonner à votre version papier, ça n'existe pas. Quand vous avez vu que, bon, d'abord le projet de loi était adopté, mais ensuite que là, tout de suite après, Facebook, Google disaient non, nous autres, on s'en va, on bloque tout. Votre réaction, ça a été quoi?
Ben, en fait, je crois que tous les propriétaires médias s'y attendaient. Mm-hmm. Donc, un bras de fer qui s'annonçait depuis même des années. 2-3 ans certainement. Dans le fond, ça n'a pas surpris personne. Ce qu'on est en train de vivre, par contre, là, c'est vraiment c'est ça, c'est le bras de fer qui s'est engagé. Il y a comme 6 mois, si on comprend bien, oui, il va y avoir probablement des négociations assez intenses. Donc, est-ce que tout ça, c'est un peu des menaces? Est-ce que ça va être vraiment mis à exécution? On ne le sait pas trop encore. Ce que moi, je remarque, par contre, là, je ne veux pas parler pour les autres, mais pour Est Média, depuis plusieurs mois, on voit que Facebook particulièrement, il nous réfère beaucoup moins. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un impact sur Facebook, malgré que le nombre d'abonnés augmente sur Facebook. L'audience diminue dans le sens qu'il ne pousse pas du tout nos nouvelles. Et là, c'est de pire en pire, là, on le sait. Pour Est Média, je vous dirais qu'en dedans d'un an, on a perdu probablement 75% de l'audience.
Wow. D'accord. C'est énorme.
Oui, donc ce qui fait, en fait, plus il est partagé, évidemment, plus ça ne règle pas la situation, mais ça augmente l'audience. Oui. Mais si on y va avec nos passes réguliers, là, il y a une grosse baisse. On voit que l'algorithme bloque systématiquement tout ce qui provient des médias. Je ne suis pas le seul, là, je sais qu'il y en a plusieurs qui vivent ça. Mm-hmm. Donc, on le voit. Par contre, la bonne nouvelle dans tout ça, s'il y en a une, c'est que ça nous oblige à faire autrement.
Oui.
Donc, ça oblige les médias à s'organiser, faire autre chose, être moins dépendants des réseaux sociaux, entre autres de Facebook. Donc, est-ce que c'est une bonne stratégie de leur part? Moi, je suis pas certain. Je pense qu'en bout de ligne, ça va être, il va y avoir quelque chose de bon pour les médias écrits. Surtout, c'est que on va prendre d'autres plateformes, on va prendre d'autres moyens, on va essayer d'amener les gens plus directement sur notre site, ce qui est déjà commencé, la presse, le Devoir, tout ça, le font avec l'abonnement courriel, Journal de Montréal a emboîté le pas il n'y a pas longtemps, S-Média va le faire bientôt, on travaille là-dessus, justement, donc on va être probablement moins dépendant, mais est-ce qu'on peut vraiment se passer de ces réseaux-là?
Ouais.
J'en doute aussi, fait que je pense qu'il va falloir qu'il y a une entente quelconque qui se fasse un peu comme en Australie. Donc, c'est en Australie, les réseaux sociaux comme Google ont accepté une entente. Je vois pas pourquoi qu'au Canada, ce serait pas le cas.
Oui. Ben, c'est sûr qu'il y a eu une semaine où, effectivement, Facebook bloquait tous les contenus médiatiques en Australie. D'ailleurs, il y avait des gens chicanés parce que là, ça bloquait aussi d'autres sites qui étaient, bon, des sites d'aide en certaines circonstances aussi, là, qui tombaient un peu. On sait un peu, là, les algorithmes, c'est pas parfait, évidemment. Souvent, ça englobe des choses un peu particulières. J'ai vu passer quelque chose récemment sur un groupe Facebook. Quelqu'un s'était fait avertir parce qu'il avait utilisé le mot « pédale », qui est péjoratif en français de France, mais ben, dans un certain contexte, mais c'est un groupe automobile. Donc, il y a vraiment quelque chose, l'ordinateur n'est pas omniscient, heureusement peut-être, mais donc, vous parliez d'abonnement courriel, là, vous avez déjà une infolette. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Comment ça fonctionne?
Non, c'est différent. En fait, l'infolettre, c'est plutôt un résumé de l'actualité aux deux semaines en ce qui nous concerne. L'abonnement, en fait, c'est plutôt quand vous entrez sur un site comme La Presse, par exemple, où on vous dit, ben là, vous avez 5 articles ce mois-ci sans être abonné, donc vous avez accès gratuitement.
D'accord.
Ou vous allez avoir accès gratuitement, mais il faut vous abonner par courriel. À ce moment-là, il faut vous entrer votre courriel et votre mot de passe, tout ça, pour vous loguer, là, vous brancher.
D'accord.
Donc, ce que ça permet, c'est d'avoir un accès plus direct au lecteur et de monter une base de données aussi.
Oui. Donc, on parle presque d'un mur payant. Là. C'est peut-être ça aussi l'option que vous envisagez. Ou vous restez dans le gratuit pour l'instant?
Ben, pour nous, on n'envisage pas le mur payant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de connaître plus qui sont nos lecteurs et d'être capable de peut-être de communiquer avec eux autrement, justement, que par Facebook, au besoin. Idéalement, ben, c'est ça, c'est d'avoir d'autres canaux de communication pour essayer de ne pas être trop dépendant de Facebook et Google.
Là, bon, évidemment, encore une fois, j'ai votre site web ouvert là sur l'écran qui est à côté de moi. Vous recevez du financement provincial et fédéral, donc certains programmes de subvention. Vous avez de la publicité. Mais bon, la question, c'est si vous perdez, vous dites déjà vous avez perdu 75% un peu de votre portée sur Facebook. Si jamais demain matin, non seulement on ne peut plus vous lire sur Facebook, mais si on vous cherche sur Google, on vous trouve pas. Est-ce que vous vous dites, ben on a 6 mois de lousse en bon français, ou est-ce que c'est on met la clé dans la porte dans 2 semaines?
Ben, je vous dirais qu'on faut relativiser au niveau de Facebook. Oui, à peu près, je vous dirais 75%, grosso modo, des nouvelles régulières, mais dès que le post est partagé ou tout ça, que la nouvelle suscite l'intérêt, ça repart là. Donc, nos nouvelles importantes, eux, ils continuent à voyager via Facebook. Google, on sort vraiment très bien. Nos nouvelles sortent bien aussi. Si on cherche un champ d'intérêt ou une nouvelle quelconque, on va sortir facilement. Beaucoup plus de monde vient de chez nous maintenant, compte tenu de la situation directement.
Oui.
Beaucoup plus d'abonnements au niveau de l'infolettre. On le voit, il y a un boom. Toutes les semaines, on en a beaucoup qui s'abonnent. Donc, je crois qu'il y a une sensibilité auprès du public, du lectorat. C'est en train de s'organiser. Je disais que moi, je suis plus ou moins inquiet. En bout de ligne, le nombre de personnes qui visitent le site n'a pas vraiment diminué depuis les derniers mois. Il était constamment en hausse. Là, on a senti qu'il y avait une certaine stabilité. Actuellement, on est en hausse depuis 5 ans. Donc, il doit avoir un effet, mais au niveau général, le site, il va très bien. Les gens viennent sur le site quand même. Donc, il y a d'autres options que juste Facebook.
Et peut-être une dernière question en terminant. Bon, là, évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer. On parlait de négociations entre Ottawa et les plateformes. C'est en cours, malgré les espèces de coups de poing sur la table là, des plateformes. Ottawa, de son côté, a dit « on va aider les salles de rédaction si Facebook, Google bloquent les nouvelles ». De quelle façon, on ne sait pas détailler. Est-ce que, puis évidemment, bon, Média Montréal, ça fait 5 ans que ça existe. Vous avez plus d'expérience que ça, bon, dans les médias. Est-ce que vous avez vu, comme moi, j'imagine, la place grandissante des plateformes, le fait que c'est devenu un peu des portes d'entrée d'Internet, c'est Google ou Facebook, ou bon, dans certains cas, Twitter, bon, pour s'informer notamment. Est-ce que vous pensez qu'on aurait... Parce qu'il est facile de dire, a posteriori, on n'aurait pas dû faire ça, on aurait dû agir autrement. Est-ce que vous regrettez peut-être de pas avoir agi plus rapidement puis de dire, on va essayer de sortir notre lectorat de ces conduits-là pour avoir, comme vous le disiez, un lien plus direct? Ou est-ce qu'il est encore temps, selon vous, de se revirer un peu de bord puis d'être capable de se maintenir à flot?
Ben, je crois que oui, il est encore temps. Je crois que les médias, en général, sont en train de le faire intensément. Ils ont commencé à le faire il y a deux ans, je dirais, un peu plus activement. Là, il y a un blitz, en fait, au niveau de s'organiser. Et je crois que ce blitz-là va s'intensifier aussi. Ce qu'on remarque qui est intéressant au niveau de votre question, c'est qu'il y a eu quand même des ententes avec Facebook et des médias, dont les médias québécois, Groupe Métro, Le Devoir... coop de l'information, là, on voit que, bon, ces ententes-là ne tiennent plus, mais il y en a eu. Ben, malheureusement, on ne sait pas, ceux qui n'ont pas eu d'entente, moi, je n'ai jamais cherché à en avoir. Je sais que la plupart n'ont pas cherché à en avoir non plus. Il y avait une certaine solidarité entre les médias, mais c'est quoi ces ententes-là? On ne les connaît pas. Coop de l'information, on dit que c'était assez substantiel, mais ils ne sortent pas de chiffres, donc on ne le sait pas. Ceci étant dit, est-ce qu'on regrette de... Je pense que tout le monde est au même point aujourd'hui. Ceux qui avaient une entente, ils l'ont plus. Et donc, on doit s'organiser. Ceci étant dit, moi, je crois qu'il va quand même avoir une entente. Je crois que c'est pas dans l'intérêt de Google ni de Facebook de sortir les médias. Le trafic est trop important pour eux. C'est sûr que là, ce qu'ils essaient de faire, c'est de payer le moins possible, j'imagine. Oui. Quelle entente il va y avoir en bout de ligne, s'il y en a une, on ne sait pas trop, mais d'après moi, c'est trop tôt encore. Moi, je pense qu'il faut pas jeter la serviette, je pense qu'on peut arriver à un règlement, et si c'est pas le cas, ben tous les médias vont devoir s'organiser. Je crois pas que ça va être la mort des médias, ça va être il va y avoir probablement de l'aide gouvernementale qui va prendre une autre forme. Est-ce que ça va être de créer d'autres portes d'entrée avec des fonds gouvernementaux? Est-ce que ça va être de l'aide directement aux médias? Je sais pas. Faut pas oublier que les médias, journalistes écrits, en tout cas, les gouvernements aident déjà beaucoup avec des crédits d'impôt pour les journalistes. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même très important pour tous les médias écrits. Il y a certains autres programmes au niveau de la transition numérique de Québec. Tu sais, il y a quand même de l'aide actuellement, sinon je crois que je vous parlerai pas aujourd'hui, puis pas grave que je vous parlerai. Mais là, au niveau des plateformes, ben ça reste à voir. Moi, je reste positif dans tout ça, je regarde ça aller, mais en même temps, si jamais il faut prendre d'autres avenues, ben je crois que les médias sont prêts à emboîter le pas. Ce qu'on souhaite, c'est que ce soit pas le cas, là, qu'il y ait une entente en bout de ligne, mais on verra.
Excellent. Ben, écoutez, on va garder espoir, bien sûr. On va espérer que
tout se passe bien.
Puis que, évidemment, comme vous dites, si jamais, bon, ben, si le divorce est prononcé, qu'on puisse se retrouver ailleurs, au moins pour informer les gens, parce que, bon, ultimement, ce qu'on veut, c'est faire notre travail. Donc, rapporter les nouvelles, c'est notre job. Donc,
voilà. Oui, il va toujours y avoir un besoin d'informations de qualité aussi. Je crois pas que c'est Média qui va faire ça. C'est pas Facebook ni Google qui va faire ça.
Non, ben je pense que s'il voulait le faire, il l'aurait fait depuis longtemps. André Bérubé, éditeur, rédacteur en chef de S Media Montréal, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Pour compléter cet épisode spécial sur le projet de loi C-18, je reçois Catherine Dubé. Bonjour Catherine.
Bonjour Hugo.
Alors, merci de te joindre à moi pour donc cet épisode spécial d'entretien journalistique. Catherine, on se parle aujourd'hui parce que tu fais partie, en fait, tu réponds à deux des principaux critères quand il y a tout à fait question là, des publics, des gens qui s'informent, des médias, tout ça. Tu fais partie des deux principaux critères, c'est-à-dire tu es dans la trentaine et tu t'informes, comme tu me le mentionnais, tu t'informes sur les réseaux sociaux, c'est bien le cas?
Oui, en fait, presque exclusivement sur les réseaux sociaux depuis les dernières années. Donc, c'est sûr que ce projet de loi-là, c'est quelque chose... Excuse-moi.
C'est quelque chose qui va t'affecter, effectivement. Là. Ça va venir changer un peu ta routine d'information. Là.
Oui, très certainement.
Justement, parle-moi de cette routine-là. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu lis, par exemple, les actualités le matin? Comment tu organises ta routine d'information?
Je pense qu'en bonne trentenaire montréalaise, j'ai un petit peu tout le temps le nez dans mon téléphone. Puis, vraiment, ma consommation d'informations, d'actualités, elle se passe un petit peu en continu tout au fil de la journée. Moi, j'utilise Facebook depuis peut-être une dizaine d'années. Puis, je remarque que dans les dernières années, en fait, mon fil Facebook s'est de plus en plus transformé en fil d'actualité dans les dernières années, et c'est presque exclusivement maintenant des contenus informatifs là, que j'y retrouve. Donc, c'est vraiment un fil d'actualité là, que je consulte vraiment au courant de la journée, plusieurs fois par jour.
Donc, Suzanne, principalement Facebook, est-ce que tu vas... est-ce que tu es sur Twitter? Est-ce que tu t'informes aussi sur Instagram ou c'est vraiment très, très largement Facebook?
J'ai jamais pris le bateau de Twitter, mais Instagram, j'en fais une utilisation qui est un petit peu plus variée, qui est aussi pour mon divertissement, tout ça. Mais force est de constater qu'il y a énormément de médias qui ont adapté un petit peu leur offre aux médias sociaux parce que je suis convaincue que je suis pas la seule, en fait, à m'informer de cette manière-là. Donc, on le voit, là, il y a des grands quotidiens comme Le Devoir, mais aussi des contenus un petit peu plus nichés qui ont vraiment développé des formats complètement adaptés à Instagram, des formats même interactifs, comme je pense à Rad, par exemple, où on a vraiment une approche très, très différente de l'information. Donc oui, là, je m'informe aussi sur Instagram.
Quand il est question de C-18, d'abord, toi, est-ce que tu es au courant de l'existence de ce projet de loi-là, de qu'est-ce que ça allait vouloir dire?
Mais ça fait un certain moment qu'on en entend parler. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est récurrent, en fait, là, quand j'écoute des topos, des bulletins de nouvelles, des trucs comme ça. On parle aussi beaucoup du précédent de l'Australie. Donc, c'est sûr que je suis ça avec un certain intérêt. Puis, une pointe d'inquiétude, je dois le dire aussi...
Mais justement, de l'inquiétude, on va en parler. Là, bon, aujourd'hui, c'est un peu particulier. On se parle, on est le 29 juin. Aujourd'hui, on a appris que Google allait emboîter le pas à Facebook pour éventuellement bloquer les contenus d'actualité. On se doute bien que, bon, ils sont en négociation avec Ottawa. C'est un peu un moyen de pression. Toi, est-ce que ça t'inquiète de perdre éventuellement cet accès-là aux nouvelles?
Ben oui, un peu, parce que c'est vraiment une habitude que j'ai forgée dans les dernières années. Puis je suis quelqu'un qui adore s'informer et pour qui c'est très, très, très important. Donc, c'est sûr que si je dois développer des nouveaux rituels pour m'informer, pour me sentir informée, c'est sûr que je vais devoir m'adapter, là.
Donc, c'est pas une question, tu vas pas juste arrêter de t'informer, tu vas aller chercher ton actualité ailleurs.
Oui, mais je pense que j'appartiens quand même à un groupe assez privilégié de gens qui ont les ressources, mais aussi l'intérêt pour ça, alors que peut-être pour certaines personnes, ça avait un côté très pratique, en fait, qui va être perdu, puis peut-être... Moi, j'ai le sentiment que pour certaines personnes, ça va freiner l'accessibilité à l'information.
Et quand tu parles de changer ta façon dont tu t'informes, qu'est-ce que tu es prêt à faire outre de dire, bon, ben, au lieu d'aller sur Facebook, tu vas consulter directement les sites de nouvelles? Est-ce que tu envisages, par exemple, de t'abonner, de prendre des applications mobiles? Ou est-ce que tu irais, par exemple, jusqu'à dire, ben, je vais payer, le fameux mur payant, là, je vais payer pour l'actualité, pour avoir un accès plus direct? Où est-ce que tu es prêt à aller?
Je pense que je vais peut-être me porter à m'intéresser aux infolettres j'ai l'impression, font un retour en force ces temps-ci. Il y a même aussi des infolettres un petit peu qui font l'objet d'une certaine curation de la part de certains médias qui vont proposer des contenus glanés un peu partout sur d'autres médias. Donc, je pense que je vais peut-être, au lieu de moi-même constituer mon propre fil de nouvelles sur Facebook en aimant des publications diverses et variées un peu partout dans le monde, mais je vais peut-être m'inscrire à des infolettres ou chercher des contenus déjà sélectionnés par d'autres là, pour avoir un accès assez large à l'information.
Tu disais, bon, Facebook, ça te sert très, très largement de fil de presse, finalement. Est-ce que tu t'es... Si jamais, encore une fois, les contenus sont bloqués, parce que, bon, évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce que tu irais jusqu'à dire, ben, je ne fréquenterai plus Facebook, Instagram, ou... Ben, c'est dur de dire, on n'ira plus sur Google, parce que c'est tellement un réflexe habituel, bon. Mais est-ce que tu serais prêt à dire, ben, je vais moins fréquenter Facebook, je vais moins fréquenter Instagram, parce que eux me privent de ces informations-là, de ce que je vais y chercher d'habitude?
Mais je pense que c'est très certainement, puis même pas parce que, je dirais même pas que ce serait en réaction ou du moins en réaction consciente au blocage des contenus, mais tout simplement parce que, ben, pour moi, aller sur Facebook en bonne trentenaire, s'il y a plus d'informations, ben, il y a vraiment plus grand-chose pour moi sur ce média social-là. Il va rester quoi des contenus publicitaires, des contenus sponsorisés. Si c'est pas de l'information, qu'est-ce que c'est? Ça ne m'intéresse pas. Donc, oui, j'ai l'impression que très, très certainement, la relation que j'entretiens avec certains médias sociaux, elle va s'altérer. Puis bon, même Instagram, que j'utilise aussi pour me divertir, ben, c'est sûr que si les contenus changent, si les contenus sont un peu moins sérieux, ben, il est possible que le rapport que j'entretiens avec ce média social-là, il change aussi.
Ben écoute, peut-être en terminant, une dernière question. Bon, on dit, il y a des arguments qui, bon, quand avec les menaces de Facebook et Google, c'était de dire abonnez-vous au journal local, abonnez-vous aux médias locaux. C'est un peu un retour, tu sais, on parle des infolettes. Les infolettes, c'était là il y a 30 ans, presque, pratiquement. C'est de retour. Est-ce que toi, tu serais prête à dire, ben, je m'en vais encore plus loin en arrière que ça, puis je vais aller rechercher le journal papier ou je vais aller rechercher quelque chose de tangible, physiquement tangible, pour m'informer, finalement?
Oui, c'est quelque chose que j'ai jamais arrêté de faire réellement. Pas nécessairement des quotidiens, mais bon, il y a toutes sortes de publications périodiques ou trimestrielles, là, je pense à Liberté, Spirale, qui touchent à toutes sortes de sujets, dont des sujets d'actualité. Pour moi, cet objet-là, qui est parfois synonyme de texte un petit peu plus réfléchi, de reportage de longue haleine, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc, oui, très certainement, il est possible que ça prenne une place un petit peu plus importante dans ma consommation d'informations si je ne peux plus m'informer autrement.
Excellent. Catherine Dubé, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Merci à toi, Hugo.
Et tout à l'heure, bon, on parlait de l'infolettre. Évidemment, je ne peux pas terminer l'épisode sans vous inviter moi-même à vous abonner à l'infolettre de Pieuvre. Ça permet évidemment, ça permet de contourner Facebook et Twitter même. Donc, si vous ne voulez pas attendre après l'algorithme ou Elon Musk, on envoie tous les contenus de la semaine. C'est envoyé samedi matin gratuitement. Bien sûr, dans votre boîte de réception. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.